podcasts de Radio Vatican.
Le processus du Brexit sera déclenché fin mars. La première ministre britannique Theresa May l'a annoncé mardi 14 mars, au lendemain du feu vert donné par le Parlement. Le déclenchement formel de l'article 50 du traité de Lisbonne, qui régit la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, entraînera le lancement de négociations entre Londres et Bruxelles. Le but est de trouver un accord pour encadrer les modalités de sortie sur deux sujets clés, la facture due par les Britanniques aux Européens et les droits des immigrés de l'UE au Royaume-Uni. Les deux parties ont 2 ans pour s'entendre. Mais si les négociations n'aboutissent pas, la chef du gouvernement britannique est prête à partir sans accord. Un scénario que craint le président du Conseil européen, Donald Tusk. Autre dossier, le risque d'éclatement du Royaume-Uni. L'Écosse veut organiser un référendum d'indépendance afin de rester dans le marché unique. Une position que refuse Theresa May, qui prône un Brexit dur afin de pouvoir reprendre le contrôle des frontières et de l'immigration. Pauline Schnapper est professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Elle revient sur les prochaines étapes de ce divorce et les difficultés des négociations entre Londres et Bruxelles.
La suite, c'est que Theresa May va envoyer la lettre au Conseil européen signalant le déclenchement donc de l'article 50 du traité de Lisbonne, qui prévoit donc les modalités de sortie d'un pays de l'Union européenne. Et cette lettre va ouvrir une période de 2 ans de discussion, de négociation, à la fin de laquelle, normalement, un accord devrait être trouvé sur les modalités de sortie, un accord ou pas d'accord, ce qui n'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, à la fin de cette période de 2 ans, quoi qu'il arrive, le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne.
Alors, ce processus commence par des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Quel est le plan de l'Union européenne et qu'est-ce qu'attend de son côté le Royaume-Uni ?
Pour l'instant, tout ce qui a été dit clairement par les 27 et par les institutions européennes comme la Commission, c'est que le statut du Royaume-Uni, une fois sorti de l'Union européenne, devrait être moins favorable que s'il était resté dans l'Union européenne, ce qui est assez logique, qui a été rendu public. Mais pour le reste, sur le plan technique, on ne sait pas du tout encore ce que vont donner ces négociations. Et côté britannique, ce qu'a dit pour l'instant Theresa May, c'est que comme elle met l'accent, sa priorité, c'est de reprendre le contrôle des frontières et donc de refuser la libre circulation des ressortissants européens, cela rend impossible juridiquement le maintien dans le marché unique. Donc Theresa May va essayer de négocier un accord de libre-échange, mais en restant à l'extérieur du marché unique et de l'union douanière.
Cette question de l'immigration, ça fait partie des sujets prioritaires. Pourquoi ça inquiète tant les Britanniques ?
Ça fait des années que la question de l'immigration, et notamment de l'immigration intra-européenne, qui est devenue un très gros problème pour une partie de l'opinion publique britannique. Après 2004, disons, la décision par Tony Blair de ne pas imposer de période de transition pour l'ouverture des frontières britanniques aux nouveaux membres de l'Union. Et donc ça a été suivi d'un afflux très important migratoire d'Européens de l'Est, en particulier les Polonais, qui sont arrivés, il y a 800 000 Polonais à peu près au Royaume-Uni, et puis au total à peu près plus de 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni. Et c'est ça qui, avec la crise économique de 2008, a provoqué disons un sentiment de rejet chez une partie de l'opinion publique, UKIP, le parti anti-européen, et dans une partie de la presse populaire aussi.
Ça sous-entend, vous le disiez, un accord ensuite de libre-échange, un accord commercial. Comment est-ce qu'elle compte négocier cet accord-là, alors que même la sortie en elle-même de l'Union européenne a l'air déjà compliquée ?
Ben oui, c'est tout l'enjeu. Effectivement, il y a quand même assez peu de chances que tous les éléments de négociation de la sortie elle-même, qui sont extrêmement complexes tellement nos économies et nos pays sont imbriqués les uns dans les autres depuis 40 ans, et ensuite un accord éventuel de libre-échange, quand on voit le temps que ça met avec d'autres pays du monde, il est quand même peu vraisemblable que ces deux accords soient trouvés en l'espace de 2 ans. Mais pour l'instant, c'est un peu la fiction qu'entretient le gouvernement britannique, parce que ça l'arrange d'un point de vue de politique intérieure.
D'autant que l'Union européenne veut faire partir le Royaume-Uni avec une note très salée, une facture très
oui,
chère.
Oui, ça c'est le troisième élément, et ça sera même probablement chronologiquement le premier à régler. Et on peut supposer que les discussions vont être extrêmement difficiles sur cette question de la facture, disons, que le Royaume-Uni devrait payer en fonction des engagements qui avaient été pris dans les années précédentes.
Est-ce que Theresa May a vraiment la possibilité de convaincre sur ces sujets prioritaires-là les institutions européennes ?
Pour l'instant, son attitude n'est pas vraiment celle de compromis, disons. Mais enfin bon, il y a des éléments de posture avant le début de négociation, de part et d'autre d'ailleurs, qui ne veulent pas forcément dire grand-chose sur la façon dont se passera vraiment la négociation une fois les portes médiatiques refermées, disons. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que Theresa May aborde ces négociations en position de force. Ça c'est très clair.
Il y a une crainte aussi que s'il n'y a pas d'accord de trouvé avec le Royaume-Uni, l'Union européenne laisse partir le Royaume-Uni sans accord. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique ?
Ça aurait surtout des implications pour le Royaume-Uni, hein, plus que pour l'Europe. S'il n'y a pas d'accord, en tout cas à court terme, d'accord commercial, ça veut dire que le Royaume-Uni en reviendrait à ce qu'on appelle les règles de l'OMC, c'est-à-dire que ces produits devraient payer des tarifs douaniers pour pouvoir être exportés sur le continent. Donc après 40 ans de libre-échange total, ce serait évidemment un revers pour beaucoup d'industries britanniques.
Il y a aussi un risque d'éclatement du Royaume-Uni. On l'a vu avec l'Écosse qui veut organiser un référendum d'indépendance d'ici fin 2018, début 2019. Est-ce qu'il est réel ce risque-là ? Il y a aussi l'Irlande du Nord d'ailleurs qui s'était exprimée là-dessus.
Alors le risque est réel, surtout côté écossais. Le cas de l'Irlande du Nord est différent, mais néanmoins aussi fragile, disons. Les inquiétudes en Irlande du Nord sont plutôt sur une reprise des tensions intercommunautaires en cas de Brexit, parce que le processus de paix et les accords de paix de 98 reposent aussi sur le tutorat, si je puis dire, de l'Union européenne. Et là, il y a un danger là-dessus. Mais pour ce qui est du risque d'éclatement à plus court terme, et c'est plutôt du côté écossais, effectivement, que se situe. Il y a une forte pression des indépendantistes écossais. Nicola Sturgeon voudrait faire un référendum avant le Brexit. Cela dit, il faut bien voir que pour faire cela, les Écossais ont besoin de l'accord de Westminster. Ils ne peuvent pas d'eux-mêmes organiser un référendum. Donc il faut l'accord de Theresa May et il est vraisemblable que Theresa May ne dira pas non complètement parce que politiquement c'est très difficile, mais retardera son accord, n'acceptera pas qu'il y ait un référendum avant les feux 2 ans, donc mars 2019, avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Et à l'intérieur du pays, quels sont les soutiens de Theresa May pour ce Brexit dur au risque de voir s'éclater le Royaume-Uni ?
Alors ça, c'est très difficile à dire parce que évidemment il y a eu le vote du référendum hein, qui donnait quand même une certes courte, mais tout de même une majorité pour le Brexit. Mais évidemment, le référendum ne portait pas sur le type de Brexit. Et donc, c'est pas vraiment si tous ces électeurs avaient bien réfléchi à ce qu'ils souhaitaient. Il y a eu ce référendum, ça a été beaucoup un mouvement de rejet de l'Europe, mais aussi de beaucoup d'autres choses, hein, y compris dans le système politique national. Donc là, on est dans l'ordre de l'interprétation par Theresa May des vœux des électeurs. Cela dit, elle, au sein de son propre parti, du Parti conservateur, il y a une majorité qui la suit sans réserve dans cette voie, y compris dans son gouvernement, bien sûr. Donc, dès lors qu'elle a une majorité au Parlement, il y a par ailleurs une opposition très très faible du côté du Parti travailliste. Donc, elle peut continuer en ayant un soutien parlementaire suffisant.
Il y a aussi un soutien de la part des médias plutôt eurosceptiques ?
Alors, il faut distinguer la presse écrite est largement eurosceptique, hein, effectivement, et en particulier la presse tabloïde comme le Daily Mail qui a une très forte influence et qui soutient à fond le hard Brexit. Oui.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.